voulez aller avec Nikki?
Bien sûr.
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aussi à tous. C'est un privilège pour moi de partager quelques mots avec vous ce matin. Je vais essayer de ne pas être trop long, on va voir. Mais on va faire comme d'habitude. Donc on va lire un passage ensemble. On va ensuite réfléchir ensemble à ce que ce passage veut dire. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner avec cette histoire qu'on va lire. Et vous savez que dans la Bible, il y a quatre évangiles. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce matin, le passage qu'on va lire, il est tiré donc de l'évangile selon Luc, au chapitre 15. Pendant son ministère, pendant les 3 années qui ont précédé sa crucifixion, Jésus a raconté beaucoup d'histoires, et c'est donc l'une d'elles qu'on va lire ensemble maintenant. Tous les collecteurs d'impôts, donc les péagers dont David nous parlait tout à l'heure, qui étaient à la solde des Romains, et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le-lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Voilà. Cette histoire, une histoire probablement l'une des plus connues de toutes celles que Jésus a racontées, il en a raconté beaucoup. Je pense que, vous me direz ce que vous pensez, mais même une personne qui n'aura pas une très grande culture biblique, je suis presque sûr qu'elle est vaguement familière en tout cas avec le titre qu'on donne habituellement à cette parabole, la parabole du fils prodigue. Hein, c'est ça le titre qu'on donne habituellement à cette histoire, mais c'est un mauvais titre. Pourquoi ? Parce que ça nous laisse penser qu'il est question que d'un fils, d'un seul fils. Mais comment est-ce que Jésus commence l'histoire? Regardez encore une fois le verset 11. Regardez les petits chiffres, le verset 11. Jésus dit, un homme avait deux fils. Il y a deux fils, et non pas un seul, et ces deux fils ont un père. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, bien sûr, n'a pas écrit cette parabole sur un coin de table, dans le secret. Non, bien sûr, il l'a racontée en public, alors qu'il parcourait la Palestine. Il était suivi d'une foule parfois immense. Et il a raconté cette histoire à une, peut-être plusieurs reprises, et c'est Luc ensuite qui l'a mise par écrit. Et dans cette foule à qui Jésus s'adressait, il y avait deux groupes. On les voit très bien au verset 1 et 2. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Voilà le premier groupe, hein, les collecteurs d'impôts et les pécheurs. C'était des marginaux, méprisés, jugés par le reste de la société. C'était pour la plupart des gens irreligieux et immoraux, des gens qui vivent comme bon leur semble et qui déterminent tout par et pour eux-mêmes. Voilà le premier groupe. Mais, verset 2, les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Voilà le deuxième groupe. Hein. Les chefs du peuple juif, les bien-pensants, c'était pour la plupart des gens religieux et moralistes. Des gens qui, à l'inverse, suivent scrupuleusement la morale qu'on leur a inculquée et qui vivent selon ce que d'autres ont déterminé pour eux, en fait, c'est ça. Donc voilà les deux groupes auxquels Jésus s'adresse, complètement opposés. Et voilà pourquoi il y a deux fils dans notre histoire, parce que les deux fils représentent ces deux conceptions de la vie qui coexistaient donc à l'époque de Jésus-Christ, on le voit bien, et qui, on va le voir ensemble, prévalent aujourd'hui encore dans notre société. Jésus nous dit par cette histoire qu'il y a deux voies, il n'y a que deux seules voies possibles que tout être humain emprunte dans sa recherche du bonheur, dans son mode de vie, dans sa recherche d'un sens à la vie, dans sa relation avec Dieu. Vous pouvez regarder dans la pensée antique, dans la pensée moderne, dans les spiritualités orientales ou occidentales, vous pouvez regarder dans les religions ou dans la pensée séculaire qui est celle qui domine en France aujourd'hui, vous allez toujours avoir ces deux tendances. Ces deux tendances que l'on retrouve donc au sein de ces deux groupes auxquels Jésus s'adresse et qui sont illustrées par ces deux fils de notre histoire. Le fils cadet, on va voir, qui désobéit à son père pour vivre comme bon lui semble et pour déterminer tout pour lui-même et par lui-même. Et à l'inverse, le fils aîné, qui obéit scrupuleusement à tous les ordres de son père, mais comme un maître tyrannique, en fait. Et le message révolutionnaire de Jésus, révolutionnaire à son époque, mais révolutionnaire aujourd'hui encore, c'est que ces deux voies, c'est les seules qu'on peut emprunter, vous aussi, comme moi, ces deux voies sont aussi fausses l'une que l'autre. Et Jésus, par cette histoire, va nous montrer qu'il existe une troisième voie, radicalement différente, une alternative à celle des deux fils, qui est celle qui est la voie du père en fait dans l'histoire. Et on va y venir tout à l'heure. Mais avant de parler du père, il faut donc qu'on s'arrête sur les fils. On va s'arrêter tout d'abord sur le fils cadet. Okay, c'est la première partie de mon message. Le fils cadet, qui représente notre humanité dans sa fuite loin de Dieu. Regardez le verset 12, encore une fois. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Essayez d'imaginer quelle a dû être la réaction de la foule, là agglutinée autour de Jésus, face à cette demande du fils cadet. Dans la société très patriarcale de l'époque, où on s'attendait d'un enfant qu'il respecte les traditions, qu'il honore ses aînés, etc. Quelle a été la réaction? La foule a dû être scandalisée, profondément choquée. Pourquoi? Tout d'abord parce que il faut savoir qu'à l'époque, un homme, s'il avait deux héritiers, eh bien, il donnait les deux tiers de son patrimoine au plus âgé et un tiers seulement au plus jeune. Mais surtout, cette division de ses biens n'avait pas lieu avant sa mort. Elle avait lieu seulement une fois qu'il était décédé. Et voilà ce fils cadet, deuxième donc seulement dans l'ordre de succession, qui vient réclamer sa part avant même que son père ne soit décédé. C'est comme s'il était en train de lui dire, écoutez bien, qu'il ne désire qu'une chose, sa mort. En fait, c'est extrêmement violent. il souhaite la mort de son père. Mais c'est pire encore parce que il se fiche de son père, oui, mais par contre, il veut bien profiter de toutes les richesses, de tous les biens, toutes les propriétés de son père. C'est purement intéressé comme relation. Il veut avoir tout ce que son père veut bien lui donner, mais il veut pas de quoi? D'un père. Imaginez la douleur du père d'être rejeté comme ça. Quand, en règle générale, lorsque notre amour à nous est rejeté, qu'il est repoussé par quelqu'un, ça peut être un ami, un conjoint, un enfant peut-être, comment est-ce qu'on réagit? Quand notre amour est repoussé, vous me direz si je me trompe, mais on réagit en général soit en voulant se venger, soit en faisant tout notre possible pour nous détacher d'un point de vue affectif de la personne qui nous a rejeté, non? Mais regardez, le père, il agit pas du tout comme ça. Le père, ici, il maintient son affection pour son fils et il s'exécute. Il partage ses biens par amour pour son fils qui, lui, mais alors, se fiche mais éperdument de son père. Regardez le verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Il veut être libre, décider pour lui-même ce qui est bien ou mal, faire ce qu'il veut, vivre pour lui-même, mettre de sa vie, sans rendre de compte à personne et surtout pas à son père. Est-ce qu'on n'a pas là une image saisissante, une image frappante de notre attitude à tous vis-à-vis de Dieu? On veut bien tout ce que Dieu veut bien nous donner, la vie, la nature, l'amour, la beauté, toutes sortes de choses, on veut bien tout ça, mais on ne veut pas de quoi? De Dieu lui-même. On profite tous les jours de cette création, des richesses de cette terre, mais on ne veut pas d'un créateur. Et curieusement, lorsque les choses tournent mal, parce qu'elles tournent mal parfois dans notre vie, comme on le voit ici, elles vont très mal tourner pour le fils cadet, comment est-ce qu'on réagit? Parce que les choses tournent mal, on réagit en rejetant la faute sur ce même Dieu qu'on a ignoré jusque-là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si, comme le fils cadet, on a choisi de mener une existence coupée de Dieu, maître de notre vie, on ne peut pas se retourner contre lui lorsque tout s'écroule. Ça ne marche pas comme ça. Et on le voit très bien dans notre histoire. Le fils cadet, on l'a lu, il part pour un pays très éloigné, avec cette perspective d'une vie libre et meilleure, mais il est vite déçu. Ses réserves s'épuisent, la famine arrive, sans rien, il est obligé de trimer pour un étranger qui le force à garder les porcs, c'était les animaux impurs par excellence pour les juifs, alors que lui n'a rien pour se nourrir. Et il voulait la liberté dans un pays éloigné, et il a obtenu l'esclavage en exil. Dans les premières pages de la Bible, on apprend que Dieu nous a créés pour que nous l'adorions et pour que nous vivions dans sa présence et à son service. Et que si, et qu'en vivant de cette manière, on aurait été parfaitement heureux, qu'on aurait pu profiter d'un monde parfait, juste et harmonieux. Mais qu'au lieu au lieu de ça, toute l'humanité entière, s'est détournée de Dieu en se révoltant contre son autorité. Pour reprendre l'image que Jésus utilise ici dans le passage, on pourrait dire qu'on est parti de la maison pour un pays éloigné et que depuis, nous errons comme des égarés spirituels. Je ne sais pas si vous avez vu, Jean d'Ormesson a écrit un énième livre. Alors, je ne suis pas particulièrement un fan de lui, mais le titre, justement, c'est « Le guide des égarés ». Et il pose cette question et dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» En fait, on ne sait pas pourquoi on est né, on ne sait pas ce qu'on va devenir après notre mort, on est tous des égarés. C'est ça qu'il dit. Autrement dit, c'est ça qu'il veut nous faire remarquer. On vit dans un monde qui ne satisfait pas nos désirs les plus profonds. Sur le plan affectif, alors qu'on aspire tous à un amour fort et durable, nos sentiments vont et viennent et toutes nos relations sont laborieuses. Et même si certains nous restent fidèles, et heureusement qu'il y en a, la mort finira toujours par nous séparer. Sur le plan personnel. Ouais, si je ne vis pas pour Dieu, Dieu qui m'a créé pour lui, pour que je connaisse son amour, que je vive pour sa gloire. Si on ne vit pas pour Dieu, on vit nécessairement pour quelque chose d'autre. Ça peut être l'argent, la carrière, la famille, la réputation, le confort, une cause sociale, politique ou quelque chose, peu importe. Quoi que ce soit, si ce n'est pas Dieu, cette chose finira toujours par prendre le contrôle de notre vie d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par l'angoisse, si le confort de ma vie est menacé parce que simplement je n'arrive pas à contrôler tous les aspects de mon existence ou je n'arrive pas à contrôler toutes les personnes de mon entourage. Ça peut être par la colère, hein, si notre réputation est mise à mal par un échec ou par une personne qui nous entoure. Ça peut être par le désespoir, si ma cause ou ma carrière n'avance pas. Ça peut être par l'insatisfaction, si les plaisirs ne me satisfont simplement pas et je veux toujours plus et encore plus, etc. La liste pourrait être longue comme ça, mais réfléchissez encore sur le plan professionnel. On a pensé au plan affectif, personnel, professionnel. Alors qu'on espère, à force de travail, tous laisser une empreinte dans ce monde durable, on est sans arrêt frustré. On ne réalise jamais pleinement nos rêves, soit à cause des pressions extérieures à nous, soit simplement parce que nos capacités, elles sont limitées. Et il y a quelque chose d'asservissant à tout ça. Particulièrement aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société, vous le savez autant bien que moi, profondément individualiste, où chacun est responsable de soi-même, maître de sa vie. D'où l'obligation permanente de se réaliser sur tous ces plans, professionnels, personnels, affectifs. On est devenus des fardeaux pour nous-mêmes. Alors c'est parfois inconscient, mais lorsqu'on vit dans le monde que Dieu a fait, comme si Dieu n'existait pas, ou sans prêter attention à ses consignes, on se met nous-mêmes dans une situation de détresse, de misère, qui est en fait similaire à celle du fils cadet, là, dans notre histoire, seul, dans la boue, affamé, à qui personne ne veut donner à manger. Et il n'y a pas besoin... besoin d'avoir vécu très longtemps pour se rendre compte de ça. Le mal-être des jeunes aujourd'hui qui partent en Syrie, le taux élevé des suicides parmi les jeunes en France nous montre bien tout le monde aujourd'hui, à n'importe quel âge, ressent cette misère de l'homme sans Dieu. Parce que notre relation avec Dieu a été brisée, alors toutes les autres relations avec les autres, avec moi-même, avec le monde qui nous entoure, toutes ces relations ont été brisées aussi. Nous sommes des égarés. Écoutez ce que Chesterton, c'est un écrivain anglais du XXe siècle, a dit à ce sujet. Il écrit « C'est le signe le plus évident de la divinité de l'homme. » Alors, il n'est pas en train de dire que l'homme est un dieu, bien sûr, mais que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour vivre dans sa présence et à son service. « C'est le signe le plus évident de la divinité de l'homme que l'homme, n'ayant jamais connu d'autre monde que ce monde-ci, l'appelle un monde étrange. » Vous voyez ce qu'il demande? Pourquoi est-ce qu'on sent tous que ce monde ne tourne pas rond, qu'on a tous le mal du pays, s'il n'y a pas de pays qu'on a quitté, hein? C'est-à-dire si on n'a pas été fait pour autre chose que l'esclavage en exil, pour une vie de liberté auprès de Dieu. Et moi, je crois que c'est cette pensée-là, à peu de choses près, qui vient à l'esprit du fils cadet au verset 17. Regardez le verset 17 encore une fois. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Est-ce que vous avez remarqué quelle est la pensée qui enclenche son retour? Regardez le verset 17 encore une fois. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? C'est la pensée de l'amour de son père, de la liberté qu'il avait auprès de son père, qui ne l'a pas rejeté, qui a maintenu son amour pour lui et qui a enduré patiemment d'être rejeté par son fils. C'est cette pensée-là qui enclenche son retour et qui l'amène à rentrer chez lui. Bien, on va revenir tout à l'heure sur cet aveu du fils cadet, cette repentance, si on veut, par laquelle il reconnaît sa faute. Père, j'ai péché contre toi, par laquelle il reconnaît son indignité, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais avant de venir à cet aveu, il faut qu'on s'intéresse un instant à l'autre fils. C'est un peu C'est un peu une pièce en deux actes. On a vu le premier acte. Et je propose qu'on passe maintenant au deuxième, pour s'intéresser donc à ce frère aîné. C'est ma deuxième partie. Et il faut juste qu'on prenne un peu de recul, d'accord? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Jésus est en train de s'adresser à une foule de personnes composées de deux groupes. Il y a les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, d'une part, et puis les chefs religieux, d'autre part. Et vous pouvez très bien vous imaginer qu'à ce stade dans l'histoire, eh bien, les chefs religieux, ils se frottent les mains parce qu'ils ne supportaient pas l'autre groupe. On l'avait vu au verset 2, les pharisiens et spécialistes de la loi murmuraient en disant « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux ». Et là, arrivé à ce stade dans l'histoire, ils se frottent les mains, bien sûr, parce que Jésus, avec l'exemple du fils cadet, il vient de montrer que ce deuxième groupe, le groupe des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, qui sont dans l'erreur, que cette manière de vivre comme bon nous semble et de tout déterminer par nous-mêmes, sans référence à Dieu, que cette voie-là est destructrice et condamnable. Seulement, Jésus ne s'arrête pas là. Et il a un mot aussi pour le deuxième groupe. Vous voyez, on pense parfois, et je pense que c'est ce qu'ils avaient en tête aussi, ces chefs religieux, on pense parfois que le monde se sépare en deux clans. Il y a les mauvais, immoraux, et les bons, vertueux. Il y a deux manières, il y a deux types de relations à Dieu, soit le rejeter, soit lui obéir. Mais Jésus nous montre ici que ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'il y a en fait deux manières de rejeter Dieu et de lui refuser la place qui est la sienne. On peut rejeter Dieu à l'image du fils cadet, comme on vient le voir, en choisissant d'être notre propre sauveur et maître, en se désintéressant de Dieu pour faire ce que bon nous semble. Et on fonctionne tous en partie sur ce principe-là. C'est à moi de déterminer ce qui est bien ou mal. Pour moi, je vis comme je veux et c'est comme ça que je trouverai mon bonheur et mon épanouissement. Ça, c'est le principe, on pourrait dire, du relativisme, de l'irreligion. Mais on peut aussi rejeter Dieu en essayant d'être notre propre sauveur et maître, à l'inverse, en s'efforçant d'être une bonne personne, en vivant de manière vertueuse pour que Dieu me soit redevable. C'est un peu le principe des impôts. Vous savez, si vous payez des impôts, j'avoue que j'en paye pas beaucoup en tant qu'étudiant, mais quand on paye les impôts, on estime que l'État nous est quand même un peu redevable. C'est-à-dire que j'ai payé mes impôts, maintenant je m'attends à ce que les routes soient en bon état, que les écoles fonctionnent, etc. Est-ce que ce n'est pas sur ce principe-là qu'on fonctionne quand on dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Justement. Comme si Dieu nous était redevable d'une manière ou d'une autre. Et bien ça, c'est le principe de la religiosité ou du moralisme. Et le fils aîné dans l'histoire, qui représente donc ce deuxième groupe auquel Jésus s'adresse, les chefs religieux, il fonctionne précisément sur ce principe-là. Regardez la fin de l'histoire, verset 28. Alors qu'il apprend que son frère est rentré et que leur père a organisé une grande fête pour lui, verset 28, le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Alors, quand on regarde aux apparences, les deux frères sont complètement différents. Le fils aîné, lui, il n'a jamais quitté la maison. Le fils aîné, lui, il n'a probablement pas dépensé le moindre sou de sa part de l'héritage, parce qu'on apprend ici qu'apparemment, il n'a jamais eu ne serait-ce qu'un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Le fils aîné, lui, il obéit scrupuleusement à son père. Donc quand on regarde aux apparences, vous voyez comme ça, les deux frères sont complètement différents. Mais quand on y regarde de plus près, leur cœur, en fait, il est identique. Les deux se fichent de leur père. Et les deux se servent de lui pour leurs intérêts. Regardez encore une fois ce que dit l'aîné. Il dit, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné ce que je voulais. Il n'obéit pas à son père par amour pour lui ou par souci pour lui, pour lui faire plaisir, mais juste pour atteindre ses objectifs égoïstes, pour avoir ce qu'il veut. C'est une corvée pour lui qui l'accomplit sans aucune joie. Juste pour rendre son père redevable, pour pouvoir lui dicter sa conduite. C'est un peu du genre, puisque je t'ai jamais désobéi, alors maintenant tu dois agir dans ma vie comme moi j'aimerais. C'est un marché. Je ne sais pas si vous avez vu le film Amadeus de Milos Forman. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est vraiment un de mes films préférés. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais c'est un film qui retrace, bon, c'est déjà assez vieux, hein, mais il retrace la vie de Mozart et particulièrement de sa rivalité avec un autre compositeur beaucoup moins doué qui s'appelle Salieri. Et vous vous rappelez peut-être, si vous avez vu le film, qu'au début du film, Salieri passe ce marché avec Dieu et lui dit ça, je cite juste le film, il dit: Seigneur, fais de moi un grand compositeur. Permets que je célèbre ta gloire par la musique et que je sois moi-même célèbre. Rends-moi immortel, qu'après ma mort, les gens parlent éternellement de moi avec amour grâce à ma musique. En échange, hein, vous voyez le marché qui arrive, fais de moi un grand compositeur, en échange, je resterai chaste, travailleur, profondément humble, et je te consacrerai toutes les heures de ma vie, et j'aiderai les autres tant que je pourrai. Amen. Voilà, ça c'est le marché de départ de Salieri. Et Salieri commence à vivre selon son vœu, sa carrière progresse. Et donc il lui semble que chacun, autant lui que Dieu, respecte sa part du contrat, donc tout va bien, jusqu'à ce que Mozart, avec ses dons infiniment supérieurs, fasse son apparition. Et là, Salieri, vous vous souvenez, il ne comprend pas comment Dieu a pu donner un tel don à un homme qui est, pour rester dans le langage de notre histoire, qu'un vulgaire fils cadet. Hein, Mozart qui vit simplement comme bon lui semble et qui se laisse aller à tous ses désirs. Et il dit la chose suivante, Salieri, il dit: C'était incompréhensible. J'étais là, je renonçais à tous mes désirs naturels pour mériter le don de Dieu, et voilà que Mozart cédait à toutes ses passions sans aucune réprimande. Et Salieri conclut en parlant à Dieu, cette fois, il dit: À partir de maintenant, nous sommes ennemis, toi et moi. Et si vous avez vu le film, vous vous rappelez comment, à la fin, Salieri cherche à détruire Mozart par tous les moyens, à ronger. Par l'amertume, par la colère et la haine, exactement comme le fils aîné dans notre histoire. Toutes les religions fonctionnent sur ce principe-là. Mais même si vous n'êtes pas religieux, vous voyez, si, comme Salieri, j'essaie de me rendre acceptable à mes yeux, ou j'essaie d'obtenir l'approbation des autres par mon niveau de moralité, ou la quantité d'efforts fournis, inévitablement, je vais finir par mépriser les autres. Pour me sentir bien, pour être sûr que je suis à niveau, donc je vais développer un sentiment de supériorité. Et inévitablement, je vais finir par envier les autres. Les Mozart qui font tout ce qu'ils veulent, qui vivent parfois de manière injuste, de manière malhonnête peut-être même, si on regarde autour de nous. Et je vais finir par développer un sentiment de colère et d'amertume. Et j'insiste là-dessus parce que je crois franchement que beaucoup de personnes aujourd'hui en France qui ont tourné le dos à la religion pensent que la foi chrétienne n'est pas différente et que devenir chrétien, ça veut dire devenir un fils aîné, hein, bien-pensant, hypocrite, amer, arrogant. Et cette idée, elle est renforcée malheureusement, il faut le reconnaître, par le fait qu'on a tous dans notre entourage des gens qui se disent religieux mais qui sont les personnes les plus hypocrites qu'on connaisse. Mais Jésus, et franchement, je ne peux pas souligner ça assez, Jésus est autant, si ce n'est pas plus, critique vis-à-vis du fils aîné, moraliste, enfermé dans sa religiosité, qu'il ne l'était du fils cadet. Dans notre histoire, le père a le même amour pour les deux fils, mais il n'est réconcilié qu'avec le premier, pas le deuxième. Vous voyez, Jésus ne sépare pas le monde en deux clans, avec les bons vertueux d'un côté, les mauvais immoraux de l'autre. Tous les deux ont tort. Jésus nous montre ici, ce matin, que chacun de nous tente de se sauver soi-même, d'utiliser Dieu pour ses objectifs égoïstes. On fait simplement de façon différente, d'une personne à l'autre, ou en fonction d'un stade de vie à un autre, ou dans un domaine de notre existence ou un autre, peu importe. Mais Jésus nous dit que ces deux voies, les seules qu'on peut emprunter dans notre vie pour obtenir le bonheur ou obtenir un sens à notre vie, ces deux voies sont aussi fausses l'une que l'autre. On est tous coupables, pour le dire autrement, on est tous coupables du même péché. C'est pour aller, pour utiliser le terme exact, hein, le péché, parce que le péché, c'est, je m'excuse de l'image, mais c'est pas simplement reprendre une part de plus au dessert, c'est mon péché mignon, hein, comme on dit. Le péché, ça consiste en quoi? Le péché, ça consiste à prendre, pardon, la place de Dieu dans notre vie, la place qui est la sienne, et on est tous coupables de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si ces deux alternatives sont aussi destructrices l'une que l'autre, si elles sont aussi condamnables l'une que l'autre. Eh bien, en nous posant face à ces deux fausses alternatives, Jésus nous oblige à en considérer une autre, qui est celle du Père. Et ce sera ma troisième et ma dernière partie. Je vais être un peu plus rapide sur cette dernière partie. La voie du Père, c'est la voie de l'Évangile. L'Évangile qui n'est pas une question de religiosité ou d'absence de religion, qui n'est pas une question de moralisme ou de relativisme, qui n'est pas non plus une voie à mi-chemin entre ces deux extrêmes, qui est quelque chose de radicalement différent. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous ramener à lui, pour nous ramener à la maison, de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous accorder son pardon et la réconciliation. Regardez l'attitude du Père vis-à-vis de son plus jeune fils au verset 20. Et franchement, c'est la même attitude qu'il a envers son fils aîné. Mais lorsque son plus jeune fils rentre, verset 20, vous voyez, c'est alors qu'il était encore loin que son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il faut savoir qu'il était impensable pour un riche propriétaire de l'époque de courir comme ça dans les rues d'un village. Jamais un père de famille n'aurait empoigné les pans de sa tunique, parce que c'est comme ça qu'il s'était habillé, avec une grande tunique, au risque de découvrir ses jambes et de courir comme un enfant. Mais ce père-là, il n'hésite pas. Il renonce à son honneur, il se précipite par amour vers son fils et il l'embrasse. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'étonnant qui se produit. Vous vous rappelez peut-être que lorsque le fils était loin du père encore, à garder ses cochons, il avait eu une idée. Il s'était dit que s'il allait revenir vers son père, il allait devoir faire réparation, il allait devoir payer sa dette pour revenir auprès du père, verset 19. On l'avait lu tout à l'heure. Il s'était dit, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais lorsqu'il se trouve finalement face à face avec son père, il a juste le temps de dire la première moitié de la phrase, verset 21. Le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, c'est comme si le père lui coupait la parole. Et il lui accorde son pardon, la réconciliation, gratuitement, librement, tout par grâce. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, coupons la parole à son fils, apportez vite les plus beaux vêtements, le plus beau vêtement, pardon, et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, et mettez-lui des sandales aux pieds, etc., etc. C'est la grâce. Mais remarquez encore que si tout est gratuit pour le fils, il n'a rien à faire, il obtient la réconciliation avec son père sans devoir faire réparation, sans devoir payer ses dettes. Tout n'est pas gratuit pour le père. Ça a coûté cher pour ce père de ramener son fils à la maison. Premièrement, il a pris sur lui la honte et le déshonneur que méritait son fils à cause de son comportement indigne. Comment? On l'a dit tout à l'heure, en courant et en embrassant son fils dans la rue au cieux et au vu de tous. Deuxièmement, il a dû lui donner son habit, splendide et propre. Je dis son habit parce qu'il ordonne à ses serviteurs d'apporter le plus beau vêtement de la maison, et forcément c'était le sien. Et pourquoi est-ce qu'il demande d'avoir son habit, qu'il lui apporte son habit? Pour couvrir la misère, la nudité, les crimes de son fils. Troisièmement, il a dû sacrifier ce qu'il avait peut-être de plus précieux. Ici, il est question d'un veau qu'on a engraissé, quelque chose d'extrêmement rare, d'extrêmement coûteux. Il sacrifie ça pour célébrer leur réconciliation, et ainsi de suite. Mais voyez, bref, tout ça, tout ce que ce père accepte de faire pour ramener son fils à lui, et qui lui coûte tellement, c'est une image extraordinaire de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ par amour pour nous et qui lui a tellement coûté. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, il a quitté la gloire, il a renoncé à l'honneur qui était le sien, et qui lui appartenait éternellement, il a vécu sur cette terre, il s'est chargé de nos fautes, et la juste colère de Dieu, la condamnation que nous méritions parce que nous étions allés loin de lui, nous étions désintéressés de lui, et bien cette juste colère, Dieu l'a détournée de nous pour la faire tomber sur lui en fait, sur lui-même, à la croix. Et par Jésus-Christ, par sa vie, sa mort, sa résurrection, et bien Dieu nous offre le pardon, la réconciliation, librement, gratuitement, par grâce. Ça c'est le message de la Bible, de la suite. Je vais vous lire juste deux passages dans la suite de la Bible qui nous parlent de ça. Écoutez bien. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir sacrifice pour le péché, afin que en lui, nous devenions justes devant Dieu. Et un autre passage. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions encore ses ennemis. L'unique raison qui fait que nous n'avons pas à faire réparation, à payer nos dettes envers Dieu, c'est que Christ a fait réparation et qu'il a payé notre dette à notre place. Et ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Il y aurait bien sûr, il y aurait encore énormément de choses qu'on pourrait dire, mais je suis déjà conscient que j'ai déjà pris beaucoup de temps et je vais donc m'arrêter là. Il y a une dernière chose qu'il faut, je vais juste conclure avec une dernière chose, parce qu'il y a une dernière chose vraiment importante à voir dans ce passage, et c'est la dernière chose qu'il faut qu'on se demande ensemble ce matin. C'est comment est-ce que cette réconciliation que Dieu nous offre, comment est-ce qu'elle s'obtient, comment est-ce qu'elle se reçoit, comment est-ce qu'elle s'accepte? Et pour répondre à cette question, j'aimerais juste vous inviter à comparer très rapidement l'attitude des deux fils face au même amour du père. Le père a le même amour pour ses deux fils, mais les deux réagissent très différemment. Le premier, le fils cadet, on l'a vu au verset 21, il reconnaît sa faute et son indignité. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et c'est ça l'attitude que Dieu attend de nous, de reconnaître notre rejet de lui, de demander pardon et de s'abandonner à cet amour de Dieu qui enlève notre péché et qui s'offre à nous en Jésus-Christ, sans réserve, sans condition et pour toujours. Mais le deuxième fils, lui, vous aurez remarqué, il n'a pas réagi de la même manière. En fait, on ne sait pas quelle a été sa réponse. Et ça, c'est un peu le génie de l'histoire. C'est que au moment où nous, on est un peu sur le borne au siège, on a envie de savoir comment ça va se terminer, qu'est-ce qu'il va faire, le fils aîné, est-ce qu'il va demander pardon, est-ce qu'il va se réconcilier avec son père, est-ce qu'il va rentrer participer à la fête, Jésus s'arrête. Et il laisse la fin de l'histoire en suspens. Comme s'il nous laissait à nous le soin de répondre à la place du fils aîné. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager à vous arrêter encore sur cette histoire. Vous avez le texte. Je vous encourage à le prendre, à le relire encore, à examiner votre vie au prisme de cette histoire, à prendre du temps pour réfléchir à votre relation à Dieu en pensant à ces deux fils qui, les deux, ont rejeté leur père, un par l'indifférence, l'autre par son obéissance manipulatrice. J'aimerais vous encourager à vraiment vous émerveiller devant l'amour que Dieu a manifesté dans l'histoire, en venant fouler cette terre, s'offrir à la croix pour nous ramener à lui, nous qui sommes tous des fils perdus loin de lui. Voilà. Alors j'espère que j'ai juste pu vous montrer un tout petit peu, que ça vous donne envie de découvrir un peu plus que l'évangile de Christ, c'est pas une question de religiosité ou d'absence de religion, de moralisme ou de relativisme. C'est pas une voie à mi-chemin entre ces deux voies qu'on emprunte tous, mais que c'est quelque chose de radicalement différent et qui transforme véritablement des vies. J'espère ça vous donne envie de réfléchir un peu plus à cette question-là. Merci pour votre patience.
Merci beaucoup, Joël. Et en pensant à ce père qui courut se jeter